Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous accompagner pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, on va réécouter ensemble, comme chaque week-end, les meilleurs extraits des émissions de la semaine. Et on commence avec l'année du Loft Music d'Ivan Cujus. Retour sur la venue d'un grand artiste dans les locaux de Sud Radio, c'est Patrick Bruel. Souvenez-vous, le chanteur aux 10 millions d'albums vendus. Vous avez fait l'honneur de vous interpréter en live son plus grand tube, Place des Grands Hommes. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des Grands Hommes. Le jour est venu et moi aussi, je voulais pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire ici et si, promis, je veux pas être le premier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Pour toi rusé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien seront là? 4, 3, 2, 1, 0.
Mais voilà, ça se passe comme ça. Tu joues souvent, Patrick, tous les jours, j'allais dire, tu buffes, tu as des gens qui viennent chez toi.
C'est de temps en temps.
Régulier, ça?
Non, vraiment pas régulier. C'est souvent sur des pianos de rencontre, comme ça, par exemple. J'ai bien aimé me mettre là, je ne savais pas ce que j'allais jouer, je ne savais pas ce que vous alliez faire, je ne savais pas même comment l'aborder. Puis voilà, il y a quelque chose qui se crée, parce qu'on essaie d'être surprenant et de se surprendre. Moi, ça m'a surpris d'entendre ton son. Tu vois, c'était joli ce que tu as envoyé avec la trompette. Ça a amené quelque chose de différent. Puis Rome, il part tout de suite, lui. Il sait où je vais tout de suite. C'est ça qui est joli. Mais j'aime bien ça, j'aime bien cet exercice-là.
En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le lien pour toi guitare-piano. C'est-à-dire que tu es à l'aise sur les deux, sur le piano et la guitare, de la même manière. Romy dit oui.
Oui, oui.
Patrick, t'es pareil sur les deux.
Oui, oui, oui. Enfin, à mon noble niveau.
Non, mais qu'importe. Parce que l'idée, c'est d'être musicien. Qu'importe l'instrument, en fait. C'est d'entendre les choses.
Oui, c'est d'entendre. Enfin, bon, je suis plus à l'aise avec le piano et la guitare qu'à la trompette, par exemple. si tu veux chercher un challenge. Allez,
je t'en offrirai une pour ton anniversaire, trompette, tu verras. C'est pas si difficile que ça.
T'en fais une autre?
Allez.
Je ne peux plus dire. Je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Toi et moi ne sommes plus les mêmes. Pourquoi l'amour va et s'en va? Si fort que soit ta solitude, elle te ramène à ton destin.
du grand amour est rude. Pour qui s'est trompé de chemin, je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Toi et moi ne sommes plus les mêmes. Pourquoi l'amour vient et s'en va.
Ah ouais, j'ai eu un vrai regret le soir des Franco. On s'était vu très
ouais,
bien, on
ouais,
a fait
ouais,
l'interview
bien sûr, bien sûr.
À midi.
Ouais, ouais.
Et j'étais sur la scène des Franco et c'était l'année où Jacques nous a quittés. Et Jacques a tellement compté pour moi, tellement compté. Et au Franco en plus, où c'est là que tout démarre. Et j'ai fait le concert et je suis sorti de scène en me disant mais pourquoi j'ai pas chanté cette chanson ce soir-là alors que je l'avais chanté avec lui sur la scène des Franco quelques années auparavant. Ça aurait été une manière de lui rendre un petit hommage quoi. Et voilà, c'était joli. Et puis le texte par lequel tu as ouvert l'émission, mais j'ai trouvé formidable.
Ouais, ouais, il est très très beau ce texte. C'est-à-dire quand tu te mets sur le piano, en principe tu vas vers quels univers quand tu chantes comme ça pour te faire plaisir? Tu vas sur des trucs plutôt français, plutôt anglais, plutôt quoi?
Les deux, mais là en l'occurrence j'essaie d'aller vers un truc où je connais le texte. Et là tu vois par exemple sur la chanson j'ai pas le texte en entier, donc
sinon
je l'aurais fait en entier, mais je veux pas abîmer ou écorcher. En général, c'est pas vrai, je préfère aller souvent sur mes propres chansons, moi si je me trompe.
personne
va venir m'engueuler.
On compose pas pareil à la guitare ou au piano en fait. On trouve des idées différentes.
Je pense qu'on est plus créatif à la guitare parce qu'on n'a pas de main, il y a pas de main droite.
Ouais.
La main droite, il y a une mélodie qui peut substituer à la mélodie qu'on peut trouver, alors que la guitare, il y a pas la mélodie doit venir toute seule.
Ouais, c'est ça.
Et souvent les grands mélodistes sont plus des guitaristes que des pianistes. Ouais. À part Julien Clerc, évidemment.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver des rediffusions du Loft Music tout l'été de 20h à 21h. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va revenir dans un instant avec Philippe Rossi et l'équipe des Vraies Voix qui ont débattu sur les anti-pass sanitaires et l'invité gourmand de Philippe David, le chef Stéphane Poli pour la chronique Déjà en cuisine. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner. Et on va continuer tout de suite avec l'équipe des Vraies Voix. Mercredi, Philippe Rossi et ses chroniqueurs Philippe Bilger, Françoise Degois et David Corsero et leur invité, l'avocat Fabrice Divisio, ont débattu sur l'instauration du pass sanitaire, une mesure qui divise clairement le peuple français et qui ressemble clairement pour nos chroniqueurs à une discrimination.
Sud Radio, les Vraies Voix. Le débat est ouvert.
Dictature, aparté de coup d'État, les antipasses sanitaires vont-ils trop loin? Le grand débat avec Philippe Bilger, Françoise Degois, David Corsero.
Excellent notre programmateur, David Che Guevara. Bravo.
Musique de circonstance et notre invité Fabrice Divisio qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, maître Fabrice Divisio, avocat et donc observateur critique du monde de la santé. Hein. C'est comme ça que vous vous qualifiez sur votre compte Twitter. Bonsoir à vous. Ça vous
Bonsoir,
choque,
hein,
tous ces mots que l'on lit sur les réseaux sociaux ces dernières heures, la dictature, coup d'État, apartheid, Fabrice Divisio?
Moi, je n'ai pas employé ces mots-là.
Oui.
Moi, j'ai employé le mot tyrannie. C'est un petit peu différent parce que c'est l'étape d'avant. En fait. Moi, je suis plus mesuré, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, dictature, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Tyrannie, on y est. Ça, c'est le cas. Depuis avant-hier soir, on y est. Si on considère la tyrannie dans son acception finalement historique, on y est. Il n'y a, y a aucun problème. C'est-à-dire que le gouvernement absolu, oppressif et arbitraire, c'est ce qui s'est passé. Faut être clair. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on arrête.
Sauf que là, il y a un intérêt général, il y a un risque pour les Français. Pas le même contexte.
C'est vrai, vous avez raison. Il y a un risque pour les Français. Je réponds juste sur ce point, sur le risque pour les Français.
Allez-y, Fabrice.
Si vous voulez, il y a vraiment deux choses qu'il faut bien distinguer. Qu'on ait un débat sur la manière de protéger, appelons ça comme ça, les Français, de prendre des mesures sanitaires, on l'a depuis un an, ce débat. Donc finalement, qu'on ait un débat de plus, qu'on aille un peu plus loin, un peu moins loin, à gauche, à droite, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie du débat démocratique. Et au fond, pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a pas de problème véritable là-dessus. Ce qui me dérange, c'est la manière dont ça s'est fait, si vous voulez. On est le 12 juillet, le 11 juillet, les Français sont libérés, parce que c'est comme ça que ça a été présenté par la présidence de la République au travers de ces clips absolument dingues qui sont venus mettre fin au confinement. Les Français sont libérés. Et finalement, trois semaines plus tard, dans une espèce d'excès d'autorité, alors que les Français sont encore en vacances, ils viennent juste de reprendre leur respiration, on annonce de but en blanc des mesures brutales, comme ça, poum, qui n'ont absolument fait l'objet d'aucune discussion avant. Tout ça en deux jours et à application immédiate. Bah, si ça, c'est gouverner, on n'a pas la même définition du gouvernement.
Bon, moi, Françoise Degoy.
Je partage chacun de vos mots, Fabrice. Je vous le dis parce que je suis d'accord avec vous. Quand j'ai vu Twitter s'agiter sur Apartheid, sur Shoah, que j'ai trouvé immonde de comparer cette situation à la Shoah, c'était vraiment immonde et ça y a des milliers de retweets sur ça. Mais je partage chacun de vos mots parce que je suis sidéré par le caractère brutal, effectivement, la brutalité et aucune discussion possible, une brutalité accentuée en plus aujourd'hui par cette annonce d'amende faramineuse. C'est complètement délirant, 45 000 euros pour les restaurateurs. Je suis tout à fait sidéré de ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai une question. Je suis une vaccinée, je le redis sans état d'âme, hein, mais j'ai envie de comprendre pourquoi ce que j'appelle moi le ventre mou des non-vaccinés, j'ai envie de les respecter. Pour moi, ce n'est pas des sous-citoyens. Je ne parle pas des antivax qui ne sont pas non plus des sous-citoyens. Je comprends qu'on puisse douter. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'un recours devant le Conseil d'État est possible ? Le Conseil d'État a fait savoir il y a quelques jours, il y a quelques semaines, que la seule ligne rouge, c'était que jamais ne soit introduit dans la loi une discrimination d'égalité entre les citoyens. Est-ce qu'un recours au Conseil d'État a une chance de passer ?
Fabrice Divisio.
Il a une chance de passer à deux titres, si vous voulez. D'abord, parce que, incontestablement, jusqu'ici, les observateurs avisés, le Conseil d'État en particulier, avaient clairement dit que tout ça était possible à partir du moment où c'était limité au grand rassemblement, pour faire simple. Alors, est-ce qu'un grand rassemblement, c'est 500, c'est 200, c'est 300, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, qu'il ne fallait pas que ça s'applique à la vie quotidienne des Français pour ne pas imposer une discrimination. C'est le premier point. Il y a un deuxième point, si vous voulez, qui me choque, moi, dans ce pass sanitaire, très concrètement. Regardez, par exemple, si j'en crois ce qui a été dit par le président de la République, alors j'ai mis la main sur l'avant-projet de loi, ça ne ressort pas clairement, je ne sais pas qui a rédigé ça, mais il faut qu'il retourne à l'école, parce que c'est invitable. Et en tout cas, il semble ressortir du projet de loi que les tests, qui donc pour ceux qui ne sont pas vaccinés, quoi, les tests admis sont les tests RT-PCR, donc les tests ou antigéniques. Mais moi, ce qui m'étonne, et donc les tests salivaires sont exclus. C'est les mêmes tests salivaires qui sont exclus, mais qui ont été utilisés à Cannes quand même. Ils ont été utilisés à Cannes. Pourquoi ? Parce qu'il fallait se faire tester souvent et que donc c'était plus pratique. Donc si vous voulez, quand on me dit que c'est sanitaire, moi je réponds juste qu'on a envie d'emmerder les Français. Quoi. Et d'ailleurs, ça, on ne s'en cache pas. Donc si vous voulez, tout ça, on est un peu déconnecté là de ce qui devrait relever du sanitaire. Et encore une fois, qu'on ait des mesures à droite, à gauche, plus ou moins rigides en fonction de l'évolution, tout ça, ça peut se discuter. Il ne faut pas être extrême dans un sens ou dans l'autre. Ça peut se discuter. Ce n'est pas moi qui ne discuterai pas. Mais pas comme ça, en fait.
Est-ce que vous allez être un avocat plaignant devant le Conseil d'État avec une chance de gagner ?
Alors, non seulement je vais être un avocat plaignant devant le Conseil d'État, mais je vais être un avocat qui va faire le boulot des députés qui ne le font pas, c'est-à-dire leur préparer, pour ceux qui veulent le saisir, un recours devant le Conseil constitutionnel. Je vais être un observateur attentif de la loi. Je vais écrire aux parlementaires pour leur expliquer quand même qu'à un moment donné, il faut que tout le monde respire. Parce que les parlementaires, dont 5% ne sont pas vaccinés quand même.
Alors justement, vous avez un député en face de vous, David Corcéreau, député MoDem du Val d'Oise, qui est vacciné. Il va vous répondre, et juste après, Philippe Bilger et vous, évidemment, 0826 300. David Corcéreau.
Oui, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement avoir un débat, c'est légitime. Alors là, je suis entièrement d'accord. Après, on parle de liberté, et donc c'est encore plus normal d'en parler ensemble. Moi, écoutez, moi je pars du principe que je l'ai déjà dit juste avant. Vous connaissez tous cette fameuse phrase : la liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Vous la connaissez tous cette phrase. Et ben voilà, c'est un peu le même principe. Pourquoi aujourd'hui on va faire en sorte que ceux qui sont vaccinés auraient plus de contraintes que ceux qui ne le sont pas. C'est le principe du pass sanitaire.
Moi, je vais vous le dire pourquoi. Je peux vous le dire pourquoi. Vous posez la question, je peux vous le dire.
Allez-y, pourquoi Fabrice Divisio ?
Monsieur le député, est-ce que le vaccin protège de la transmission ?
Non. Alors non, mais il vous protège. Il vous protège
de forme grave.
De forme grave, et surtout, il protège le fait de surcharger l'hôpital et de prendre plus de risques aux
monsieur,
autres.
Vous venez de m'expliquer la raison, et monsieur, pardonnez-moi, mais vous venez de m'expliquer la raison pour laquelle votre passe sanitaire est stupide.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
On continue avec la rubrique déjà en cuisine. Mardi, Philippe David recevait le chef Stéphane Poli pour un focus sur le chèvre frais de l'Ardèche qui vous a forcément mis l'eau à la bouche. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Bonjour Stéphane Poli. Bonjour.
Vous
Bonjour.
Êtes chef du restaurant Le Vivarais à Vals-les-Bains et vous voulez nous parler du chèvre frais. Alors, il y a un chèvre frais local dans l'Ardèche ?
Oui, oui, on a beaucoup de variétés de chèvres en Ardèche, hein, que ça soit frais, picodon, sec, demi-sec. Il y a énormément de variétés de fromages. On est assez riche là-dessus en Ardèche.
Alors justement, qu'est-ce qui différencie ces fromages de chèvre, pardon ?
Après, il y a les AOC picodon ou les non-AOC picodon. Puis après, il y a le temps de séchage du fromage qui fait qu'on est sur du frais ou du moins frais.
Alors justement, comment est-ce que vous le cuisinez ou les cuisinez, les chèvres frais ?
Bah nous, on a plusieurs façons. Alors on se sert, on fait... par contre, si on travaille sur que du chèvre frais, on a une tendance à avoir un goût très très léger. Donc nous, on fait par exemple avec de la truite d'Ardèche, un petit tartare de truite et une espuma au picodon que l'on fait sur un petit apéritif. Mais on mélange chèvre frais et un petit peu de chèvre sec pour apporter du goût. Donc ça, on fait fondre ce fromage en casserole, on rajoute un petit peu de crème et on fait ça en espuma au siphon.
En espuma au siphon, donc en mousse quoi en fait ?
Oui, tout à fait. Comme ça amène un côté léger. Et on sert ça avec une truite marinée tartare qui est un apéritif qui est vraiment très, très agréable.
Qu'est-ce que vous faites comme autre plat avec le chèvre frais ?
Alors, on le travaille par exemple en fromage travaillé, qu'on propose aussi. On fait un petit mélange d'épices, d'herbes, on fait un petit fromage travaillé. Et puis après, on travaille un autre fromage qui est un mélange. On a la chance d'avoir la laiterie de la Rayadou qui nous fait une brousse d'Ardèche, alors qui est un mélange, pas 100% chèvre, mais il y a chèvre-vache. Oui, c'est un mélange, ça. Et là, on travaille, on l'allège un petit peu et on fait une brousse à la truffe blanche d'été, petit pois, vinaigrette truffée, qui est vraiment très agréable.
Alors, vous travaillez pas seulement donc le chèvre frais, vous travaillez aussi les truffes, la blanche, la noire ?
Oui, 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 absolument. Suivant la période, bien sûr. Hein, là, on est sur de la tuber estivum, inévitablement.
Oui, celle d'été.
Et puis après l'hiver, tuber mélanosporum, qui est beaucoup plus corsé aussi. Et ça marche très, très bien avec le chèvre. Sur la partie hivernale, on prend un chèvre frais que l'on farcit à la truffe.
Ouf,
avec un tout petit peu, on met un tout petit peu de mascarpone que l'on mélange avec de la truffe râpée entre chaque tranche et on remonte ce fromage que l'on laisse mariner 48 heures avec la truffe et là on a un goût qui est extraordinaire.
Vous êtes étoilé au Michelin, vous privilégiez aussi les produits locaux, les produits du terroir, du coin comme on dit.
Oui absolument, alors je suis malheureusement plus étoilé depuis cette année.
Ah pardon.
Donc voilà, bon, on est dans une dynamique, toute l'équipe et moi-même, de reconquête de cette étoile qu'on a perdue en janvier de cette année. Et bon, tout le monde est très motivé, tout le monde est à fond et on va tout faire pour aller à la reconquête de cette étoile.
Bien sûr.
Et puis, on travaille effectivement beaucoup sur du locavore. On est amoureux du terroir, amoureux des produits de l'Ardèche. L'Ardèche est un terroir assez riche, que ce soit, comme on vient d'en parler, sur les fromages, sur les produits laitiers, puisqu'on a une laiterie chez nous à Vals-les-Bains même. Donc tous les produits laitiers, que ce soit nos yaourts, nos fromages, notre lait, notre crème, le beurre, vient tout de Vals-les-Bains. Et puis ensuite, on travaille beaucoup sur les viandes. On a le fin gras du Mézin. Alors, on n'est plus dans l'appellation fin gras du Mézin actuellement, bien sûr, parce que ça se termine en juin. Mais on a du bœuf qui est élevé sur le plateau Ardéchois.
Oui.
On a nos agneaux qui viennent de Mézillac. On a un élevage magnifique à Mézillac avec des agneaux qui sont validés maintenant, agneaux de l'Ardèche. Le label a été accepté et passé, donc on travaille sur de l'agneau de l'Ardèche. Le veau vient du plateau ardéchois. On a la chance, grâce à Christophe Guez, d'avoir du cochon ardéchois. C'est le cochon qu'il a ramené de Hongrie, qui est le cochon Mangalitsa, mais qui est élevé aussi en Ardèche. Donc on travaille beaucoup sur le cochon Mangalitsa aussi. Et puis ensuite, on a plein de producteurs qui nous font quelques petits légumes pas très loin de chez nous. On a des escargots
dans
la vallée de l'Eyrieux. Ouais, voilà, on a vraiment un terroir assez, assez riche.
Merci. Une dernière question très rapide. Comment vous réagissez aux annonces faites par le président de la République hier soir en tant que restaurateur ?
C'est compliqué d'avoir un jugement, c'est difficile. On se doute bien que si tout prend de l'ampleur et que l'on risque une fermeture encore au mois de septembre, eh ben, il vaut mieux anticiper et qu'on puisse continuer à travailler, parce que pour nous, ça a été vraiment difficile psychologiquement de se retrouver 7 mois à l'arrêt. Donc s'il y a des choses à faire qui peuvent éviter de refermer, je pense qu'il faut les faire. Mais bon, ça reste que mon avis et je suis pas assez calé et assez pointu pour en juger. Mais moi, tout ce qui peut être fait pour éviter une fermeture, je pense qu'il faut le faire. Voilà, c'est mon avis.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Philippe David qui vous accompagne chaque jour avec Judith Belair aux commandes de la matinale de Sud Radio de 7h à 10h. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec Arthur Delaborde et ses invités pour un débrief des annonces d'Emmanuel Macron dans Sud Radio Midi. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio et merci à tous pour votre fidélité chaque week-end. Alors bien sûr, on va retrouver dans un instant Arthur Delaborde dans Sud Radio Midi. Mais d'abord, on va s'écouter le jeune groupe breton Lunis, les grands gagnants du concours Sud Radio Centre-Accord qui ont fait la première partie de Julie Zenati à la Cigale le 20 juin dernier, signent un tout nouveau titre sorti ce vendredi 16 juillet basé sur l'urgence d'agir pour la planète. Et ça marche très fort pour eux puisqu'ils cumulent aujourd'hui plus d'un million d'écoutes par mois sur Spotify. Voici J'aimerais danser sur
ce... On se disait pas le temps, pas envie, pas longtemps, mais depuis y a la vie qui a cramé. Souviens-toi le beau soleil sur les fleurs en été. Quand il faisait nuit, on pouvait voir la Voie lactée. On se disait y a le temps, on verra doucement, mais très vite y a la vie qui a cramé. Souviens-toi l'océan dans tous ses grands bleus salés. Quand il faisait beau, on voyait le soleil plonger. Et moi, je me disais ça va passer. Et moi, je me disais oublie tout. Souviens-toi le jour où tu m'as emmené danser. Il y avait toi, il y avait moi, plus rien à penser.
J'aimerais danser avec toi tout le temps. J'aimerais danser avec toi tout le temps. J'aimerais danser avec toi tout le temps.
Y'a le temps, c'était pire, y'a longtemps. Et voilà, y'a la vie qui a cramé. Souviens-toi les beaux jours où tous les oiseaux dansaient. Bien avant nous, bien avant tous les oiseaux dansaient. Et moi, je me disais ça va passer. Et moi, je me disais oublie tout. Souviens-toi le jour où tu m'as emmené danser. Il y avait toi, il y avait moi, plus rien à penser.
J'aimerais danser avec toi tout le temps. J'aimerais danser avec toi tout le temps. J'aimerais danser avec toi tout le temps. Avec toi tout le temps. J'aimerais danser avec toi tout le temps. J'aimerais danser avec toi tout le temps. J'aimerais danser avec toi tout le temps. Oh, 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 tout le temps. Tout le temps. Tout le temps.
J'aimerais danser dans le meilleur de Sud Radio, premier titre de l'album de Lunis, grand gagnant du concours Sud Radio Centre-Accord. On poursuit maintenant avec Sud Radio Midi. Jeudi, Arthur Delaborde recevait Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP, venu présenter son livre L'Archipel français. Et ensemble, ils sont revenus sur les nombreuses manifestations partout en France suite aux annonces fracassantes d'Emmanuel Macron.
Le meilleur de Sud Radio.
Bonjour à vous, Jérôme Fourquet. En réaction à ces rassemblements, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, aimerait, dit-il, qu'il y ait beaucoup plus de dictatures comme la France dans le monde. Je vous propose de l'écouter en préambule.
Je le dis, il faut regarder effectivement les proportions. Il y a 3 millions de personnes presque qui se sont inscrites pour des rendez-vous. Après le message d'alerte et de pédagogie du président de la République lundi soir, ça montre qu'il y avait, dans ceux qui n'étaient pas vaccinés, une toute petite minorité, et je crois une encore plus petite minorité qui se livre à la violence, qui est anti-vaccin, qui ne croit pas au progrès, qui ne croit pas à la raison, qui ne croit pas au débat éclairé, et plus de gens qui simplement se posaient des questions, attendaient, et le message sur la pandémie, sur le variant Delta, pardon, du président de la République a été, je crois, un électrochoc salutaire pour faire prendre conscience des risques sanitaires et pousser chacun à se faire vacciner.
Voilà, un électrochoc salutaire. Jérôme Fourquet, vous qui êtes l'auteur, je le rappelle, de ce livre, L'archipel français, notamment, qui avait été un best-seller et qui avait reçu notamment le prix du livre politique en 2019. Et vous qui avez forgé ce concept qui s'impose hein, désormais dans la sphère publique, ce concept d'habitants qui vivent quelque part sous le même drapeau, mais dans des îles différentes et distinctes. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations d'hier et plus largement de ces annonces de l'exécutif de faire peser l'essentiel des restrictions sanitaires sur les non-vaccinés?
Alors, je pense qu'il faut remettre ces manifestations spontanées d'hier un petit peu en perspective, un peu d'ailleurs comme l'a fait le membre du gouvernement dont vous avez passé, Clément Beaune, dont vous avez passé les propos, c'est-à-dire que 20 000 personnes à l'échelle d'un pays, certes réunis dans un laps de temps court, hein, puisque ces manifestations faisaient suite aux annonces du président lundi soir, mais 20 000 personnes, c'est quand même relativement peu, ça nous rappelle un petit peu ce que nous avions vu à la rentrée de septembre 2020, quand il y avait une mobilisation balbutiante contre le port du masque obligatoire, avec se mêler à cela, ce qu'on a vu encore hier, un espèce de retour de flamme, mais assez timide, de la part des Gilets jaunes. Donc on a une frange du pays qui est contestataire. Cette frange, elle est très hétéroclite, puisque, comme on le disait, on croise dans ces manifestations des gens qui sont proches de ce qui reste des Gilets jaunes. Par exemple, Mme Jacqueline Mourot, qui était à l'initiative, une des initiatrices de ce mouvement-là, mais on a aussi une frange de la mouvance écolo autour des propos, par exemple, de quelqu'un comme Mme Rivasi. Et puis, on a aussi toute une composante de droite souverainiste avec des gens comme Philippe de Villiers, Florian Philippot, qui ont pris des positions très, très virulentes contre ce qu'ils appellent une dictature sanitaire. Ajouter à cela certaines franges aussi peut-être de la France insoumise. Donc on est sur un conglomérat assez hétéroclite qui se fait entendre dans la rue, y compris à une date symbolique, le 14 juillet, sur des agendas différents, des motivations différentes. Certains contestent la dictature sanitaire, d'autres le manque de recul scientifique vis-à-vis de cette stratégie vaccinale. Mais tout ça est à mettre en parallèle avec les dizaines de millions de Français qui sont d'ores et déjà vaccinés et les 3 millions de personnes qui, en l'espace de 48 heures, ont pris des rendez-vous. Donc ces chiffres, ou ce rapport de force, si vous voulez, est corroboré par ailleurs par des enquêtes d'opinion qui montrent, les premières qui ont été faites après les annonces présidentielles, que entre 60 et 75% des Français, selon les mesures testées, adhéraient ou étaient favorables à ces mesures. Donc il y a un noyau qui est réfractaire, qui va peser entre 15, 20, 25% de la population, qui est hétéroclite. Et on voit que donc, c'est une ligne de fracture dans la société française, mais on n'est pas sur les prémices d'un affrontement de deux blocs de poids identiques. Il y a quand même la grande majorité de la population qui, de manière passive ou plus convaincue, se range aux arguments et aux injonctions gouvernementales.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Arthur Delaborde, rendez-vous tous les jours cet été dans Sud Radio Midi. Je vous propose qu'on réécoute maintenant la rubrique Un été à l'étranger. Jeudi, Philippe David et Judith Belair vous ont emmené faire un tour du côté du Portugal avec Hervé Piglowski. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Bonjour et merci de m'accueillir à nouveau au sein de votre émission. Alors, il y a un an, nous avions parlé, je vous parlais depuis le Liban, et depuis, nous avons justement changé et bougé vers le Portugal. Hein. Suite à une situation très compliquée sur le Liban, nous avons cherché une stabilité du quotidien que nous avons retrouvée au Portugal et nous y sommes installés depuis fin 2020.
Et alors, pourquoi le Portugal précisément ?
Parce que c'est un pays justement qu'on connaissait être très chaleureux, très agréable au niveau du climat, et proche également aussi de la France pour se retrouver assez proche de la famille. Mmh. Et nous étions tentés de découvrir un peu plus sur ce magnifique pays.
Et alors ça vous plaît, on imagine, est-ce que vous parlez le portugais ?
Je suis en train d'apprendre le portugais. Je n'ai pas encore la prétention de dire que je parle portugais, mais oui. En effet, donc, nous sommes en train d'apprendre déjà depuis un an. Oui. Pour nous Français, c'est plus facile de le lire que de le parler.
Ouais.
Donc voilà, c'est cette phase-là qui est plus
compliquée. Et au niveau boulot, comment ça se passe pour vous, du coup, si vous ne parlez pas la langue ?
Bon, déjà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aussi une communauté française qui est importante ici, puisqu'on compte environ 25 000 ressortissants sur le Portugal.
Oui.
Mais également, donc, voilà, je cherche à travailler également sur le marché portugais. Donc, je suis en train de lire les journaux, de regarder les nouvelles tous les jours, justement, pour absolument m'intégrer, ainsi que les membres de ma famille.
Et vos enfants, ils vont aller dans une école portugaise ou française à la rentrée ?
Et elles intègrent une école portugaise à la rentrée.
D'accord,
de septembre,
donc il va falloir qu'ils apprennent très vite la langue également, hein.
Ça y est, ils ont déjà passé des tests d'entrée et ont été brillamment reçus.
Ils apprennent vite, les enfants.
Voilà.
Est-ce que vous êtes bien acclimaté à la nourriture ? Comment c'est gastronomiquement, pardon, on va y arriver, le Portugal.
C'est comme le titre d'une émission de Sud Radio, c'est excellent.
Voilà, merci Philippe, j'adore. Envoyez-moi des fleurs encore comme ça. Alors, comment la nourriture ?
Ça serait franchement très difficile de dire qu'on ne peut pas s'habituer à la gastronomie portugaise. Vraiment,
ouais, c'est
donc,
très
ils
bon.
Ont vraiment des plats exceptionnels, très bons. Et ici, ils cuisinent principalement aussi le poisson star, c'est le bacalao, qui est en fait la morue, qu'ils cuisinent de mille façons différentes, et j'exagère à peine. Et puis, vous
on
avez également,
Philippe
bien
David,
sûr...
Philippe David,
excusez-moi, j'interviens, mais un bacalhau à brache ou un bacalhau cum natache, c'est absolument fabuleux.
Et lui, il parle, hein, vous avez vu. Hein.
Voilà, monsieur les connaisseurs, tout à fait.
C'est sûr. Et alors, comment
et puis,
ça
vous avez également...
Allez-y, je vous en prie, allez-y.
Non, je disais, et puis il y a bien sûr le pastel de nata, cette petite spécialité sucrée aussi qui est exceptionnelle, et puis d'autres spécialités gastronomiques que j'invite vos auditeurs à découvrir en venant au Portugal.
Et alors, comment ça se passe en termes de climat, de balade, comment vous vivez votre été portugais ?
Alors, nous avons la chance d'être dans un pays aussi qui est verdoyant, c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit. C'est un pays très... C'est un peuple très fier et qui embellit son pays vraiment, donc la nature partout, les parcs partout, les bords du Tage, les bords de l'océan également, et puis dans l'arrière-pays aussi, vous avez des magnifiques paysages. Beaucoup de monuments à découvrir, notamment sur Lisbonne et les autres villes portugaises, et puis pour n'en citer que quelques-uns, bien sûr, la tour de Belém ou le musée des Azulejos, ou également le musée des Carrosses, qui est intéressant. Donc voilà, pas mal d'activités et de lieux historiques à découvrir.
Et au niveau des règles sanitaires, comment ça se passe au Portugal ?
Alors, bon, il y a eu une période difficile au mois de janvier, donc il y a eu une période un peu plus longue avec le confinement et toujours en phase de déconfinement. Ceci étant, les Portugais donc, sont très disciplinés et respectent parfaitement toutes les restrictions et les décisions du gouvernement. Donc là, on a retrouvé un semblant de vie normale au mois de juin. Voilà. On reste cependant prudent avec le fameux variant Delta qui est en train aussi également de toucher le pays comme un peu partout en Europe. Voilà.
Et alors, comment vous avez un endroit en particulier à recommander à nos auditeurs, Hervé Piglowski, au Portugal ?
Au Portugal, bon, c'est vrai que ce que j'apprécie beaucoup aussi au Portugal, c'est un pays qui est très adapté pour les familles. Donc également pour un peu se balader dans les lieux justement aussi à l'extérieur. On peut profiter justement en ces temps de pandémie aussi pour découvrir l'art à l'extérieur, puisque le Portugal a ces fameux azulejos qui décorent les immeubles. Ce sont ces petites plaques de céramique avec des motifs peints dessus. Donc c'est vrai que c'est magnifique de découvrir les façades portugaises et également la calçada portuguesa qui est en fait le pavé portugais. Ce sont des pierres taillées de différentes teintes représentant des motifs à même le sol. Donc c'est vrai que déjà rien que les balades en extérieur sont magnifiques.
Et ça plaît à Philippe David encore. Hein. On le voit, il est content. Hein.
Surtout on voit derrière Hervé Piglowski le pont du 25 avril qui est le pont qui rejoint la Costa de Caparica avec Lisbonne. Et
vous
c'est absolument fabuleux. Et vous avez la copie du Corcovado de Rio juste à côté.
Voilà.
Vous pouvez parler ce qu'on appelle le Cristulei.
Voilà, je bouge. Voilà.
Voilà.
Pardon, je me bouge. Voilà.
Je
ici.
Ne dirai pas mieux. Voilà. Hein. Je ne dirai pas
voilà.
mieux.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Philippe David qui vous accompagne chaque jour avec Judith Belair aux commandes de la matinale de Sud Radio de 7h à 10h. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec Vincent Ferniaud qui vous emmenait du côté du Roussillon dans les routes de l'été. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Merci d'être fidèle à cette émission tous les week-ends. Avant de retrouver les routes de l'été, on va s'écouter l'un des plus gros succès de Sade. C'est aussi leur single le plus réussi au niveau international, puisque puisqu'il a atteint la 5e place au Billboard Hot 100 et la 9e place du Top 50 en France. Voici Smooth Operator sur Sud Radio. Dans le meilleur de Sud Radio, extrait de l'album Diamond Life de l'excellent groupe britannique Sade. Et on va terminer avec les routes de l'été. Lundi, Vincent Ferniaud vous emmenait dans le Roussillon avec la meilleure ouvrière de France primeur, Clotilde Jacoulot, pour découvrir les produits primeurs de cette magnifique région. Écoutez.
Sud Radio, c'est encore meilleur.
Eh bien, on est avec Clotilde Jacoulot en ligne. Bonjour Clotilde.
Bonjour.
Alors Clotilde Jacoulot, MOF primeur, hein, c'est ça hein, le titre exact?
Oui, c'est bien ça, meilleur ouvrier de France, primeur. Donc primeur, c'est vrai qu'on a un métier où on nous demande souvent ce qu'on fait, bah, on vend des fruits.
Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vendez des produits frais, fruits et légumes notamment. Et en première. Voilà. Alors, il faut savoir que la maison Jacoulot, elle est installée à Morteau, dans le Doubs. Et c'est pas, ça date pas d'hier, hein?
Oui, alors la maison Jacques Couleau, on vient de fêter nos 60 ans. Moi, je suis la petite fille de René qui l'a créée. Et puis après, mes parents. Donc, je tiens la boutique avec mon mari. Nous sommes une vingtaine. Et à Mourteau, on peut dire qu'il n'y a pas que de la saucisse.
Eh ben non.
Des fruits et légumes.
Eh ben voilà. Et c'est, ça fait bien plaisir d'ailleurs, hein, parce qu'avec la saucisse, il faut manger des légumes, de toute façon. Alors, Clotilde, j'ai fait appel à vous comme à vos confrères et consoeurs, parce que je me suis dit, pour découvrir les spécialités de France, nos plus belles spécialités, il n'y a pas plus indiqué que les meilleurs ouvriers de France qui connaissent tellement bien leur sujet. Et ce matin, on est dans le Roussillon. Donc, je me suis naturellement, j'appelle une MOF primeur pour parler des fruits hein, dans cette région.
Oui, alors il faut dire que toute la région du sud, à Mourteau, on ne va pas trouver de cerises, de pêches, d'abricots.
Non, pas mais trop. Voilà, hein. Ah ben bah, il y en a à Fougerolles, en Haute-Saône, hein, pour, mais pour faire du kirsch.
Oui, alors là, cette année, ça a été très compliqué. Là, bah, oui, c'était très compliqué pour toute la France.
Ouais,
alors,
absolument.
Par exemple, en début de saison, on a cette merveilleuse cerise de Céret.
Ah.
Donc à Céret, on a un petit microclimat. Et puis, c'est de la cerise qui annonce la fin de l'hiver. Alors, on l'adore parce que quand on la voit arriver, on sait que normalement, c'est bientôt l'été.
Mmh.
Bon, c'est pas la plus grosse région de production de cerises. On sera plutôt en Rhône-Alpes.
Mais c'est la première. Mais c'est la première.
C'est ça. C'est là qui nous fait vraiment plaisir. Et c'est là qu'on voit à la télé. Et puis une fois que c'est passé à la télé, on a tous nos clients qui nous disent
on
veut de la cerise, on veut de la cerise.
C'est
la cerise de Céret, c'est une petite niche hein, quand même. Donc,
oui, mais Clotilde, vous savez bien, c'est encore le drame de la télé. Hein, quand on monte des images, ça donne envie à tout le monde. Et la radio, c'est pareil. On parle de la cerise de Céret parce qu'effectivement, c'est cette cerise qu'on attend tout l'hiver, et la première à sortir sur les marchés, c'est celle de Céret. On est un peu dans les hauteurs quand on remonte de Banyuls, hein, justement, on parlait de Banyuls tout à l'heure, déjà sur les contreforts des Pyrénées, Céret, première cerise de l'année. Et c'est important.
Un vrai microclimat pour vraiment un produit de qualité, et surtout un produit primeur. Donc là, on est vraiment dans le cœur de mon métier. Après, clairement, le climat méditerranéen, l'ensoleillement unique, on va être vraiment sur des produits comme la pêche, la nectarine. Alors là, vraiment, pratiquement la moitié de la production nationale des pêches et des nectarines de France se fait à cet endroit. Alors nous, on nous demande souvent, et je ne sais pas si vous le savez, quelle est la différence entre la nectarine et le brugnon.
Alors moi, je le sais, mais dites-le nous.
Allez, le brugnon, c'est quand même... Initialement, on vendait des brugnons qui sont quand même beaucoup plus fragiles. Et puis, petit à petit, la nectarine est apparue. Elle a été obtenue grâce à des croisements. Et puis, cela permet aussi que le noyau se détache bien plus facilement qu'un brugnon. Alors, souvent, le brugnon est beaucoup plus juteux, un petit peu plus goûtu, mais tellement plus fragile. Alors, voilà. Maintenant, on parle plutôt de pêche et nectarine que de brugnon et de
D'accord.
pêche.
D'accord. Bah, on pourrait dire, pour faire simple, que le noyau de la nectarine, c'est un noyau façon pêche, alors que c'est plutôt un noyau de prune, le brugnon.
Voilà, exactement. Cela vient de l'origine de la pêche de la nectarine qui a été obtenue grâce à un croisement avec des pruniers.
Voilà.
Mais vraiment, quand on mange une nectarine, c'est plus facile, on n'a pas cette adhérence de la terre sur le noyau.
C'est ça, si et on veut faire des beaux quartiers. Mais il y a surtout un produit dont je rêvais que vous me parliez, que vous connaissez bien. C'est une appellation d'origine protégée, c'est-à-dire l'appellation européenne pour l'AOC. C'est l'abricot rouge du Roussillon. Alors là, il est de chez lui, là.
Oui, alors l'abricot rouge du Roussillon, moi j'aime bien que ça soit devenu quelque chose de reconnu, puisque depuis des années que j'en vends, il est petit, il est taché de rouge, et on disait souvent que c'est le vilain petit canard.
Ah ouais?
Oui, et du coup, qu'il ait obtenu cet AOP, cet AOC, ça permet de le mettre en avant, puisqu'on ne peut pas être derrière chaque client pour expliquer que même s'il est un petit peu taché, et puis on peut récolter 4 variétés différentes d'abricots. On a l'Héléna du Roussillon, le Royal du Roussillon et le Gâtri. Alors avec le rouge du Roussillon, ça fait 4 variétés qui sont vraiment...
Qui rentrent dans la même nomenclature en fait, hein, dans l'appellation, dans le cahier des charges de l'appellation.
Exactement.
Et en matière de goût, c'est quoi la différence avec les abricots classiques?
Alors c'est un abricot qui ne va pas du tout être pâteux et puis qui va avoir un bon équilibre entre l'acidité et le sucre.
Mmh.
Et puis c'est là vraiment toute la difficulté, puisqu'on peut avoir des abricots qui soient très sucrés mais pas assez juteux, acidulés mais pas assez sucrés. Ce rouge du Roussillon, il faut dire quand même que le Roussillon offre énormément de beaux produits. On a la fraise de Nîmes, l'artichaut du Roussillon, l'oignon doux de Cévennes qui remonte un peu, la lentille. On a vraiment énormément de produits.
Et l'oignon de Toulouse, avec un jeu.
Avec un jeu, on se trouve pas, mais c'est vrai que ce climat permet d'avoir des produits qui sont dans un équilibre parfait.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Vincent Ferniaud qui vous accompagne sur les routes de l'été chaque jour de 10h à midi sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le week-end prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellent week-end à tous à notre écoute.